contrôle antidopage, ce qui pourrait priver du titre la Russie qui participe déjà aux Jeux Olympiques sous pavillon neutre pour des scandales de dopage. 9h10 à Paris, tout de suite vous retrouvez Juan Gomez.
Avec les auditeurs de RFI, merci Jeanne Bartoli.
Radio G, 101.5 FM. Radio G. 30 minutes pour faire le plein d'histoire et de musique. Nous poursuivons aujourd'hui notre tour de France entamé il y a de cela un mois. Nous quittons la Provence et nous allons longer l'arc méditerranéen avec tout d'abord deux courtes histoires qui reprennent toutes les deux le même thème, à savoir celui de l'homme aveugle qui va être trompé à cause de sa cécité, pour le pire ou pour le meilleur. Arrivés en Pays Basque, nous ferons la rencontre de Jean et de Jeanne, sa femme. Jean étant le prénom le plus répandu dans les contes pour désigner un homme niais, et vous comprendrez aisément pourquoi. Nous finirons notre périple du jour sur la dune dans les Landes, en compagnie d'un jeune berger qui va vivre une aventure incroyablement fantastique. Mais tout de suite, direction Arles pour notre première histoire.
Tout compte fait. Tout compte fait.
Un jour, arrive en Arles un vieux saint aveugle aux pieds nus. Il se met à prêcher l'évangile sur la place, parmi les platanes. Les Arlésiens s'assemblent autour de lui, font silence, boivent ses paroles plus délicieuses que le miel. Ce saint homme parle si bien des mystères que c'est un grand bonheur de l'entendre. Il passe ainsi quelques jours à raconter la grande histoire de la création. Il soulage quelques douleurs profondes avec une grande sagesse. Puis il reprend son bâton et s'en va. Les Arlésiens l'accompagnent jusqu'au bord du grand désert gris et blanc de la Croix. Puis il confie à un jeune garçon le soin de le conduire jusqu'à la ville prochaine. Le vieil apôtre aveugle et l'enfant s'éloigne donc de Montbatin, sur le chemin caillouteux, abandonnant derrière eux les tours d'Arles et les bouquets de peupliers au bord du Rhône. Ils vont sous le soleil éblouissant. Le chemin est malaisé, la chaleur écrasante. Vers midi, le garçon courbe l'échine et s'éponge la nuque. Il est fatigué. Il s'ennuie. Alors, il lui vient cette idée malicieuse. « Saint homme, n'aimeriez-vous pas prêcher un peu ?»« Bien sûr, mon enfant. Mais devant qui prêcher ?»« Ah, je vois devant nous une foule d'hommes et de femmes. Ce sont sans doute ceux de la Croix qui voulaient venir en Arles pour entendre votre parole d'or. Ils sont assis là, en silence, sur le gazon du fossé. » Ils retiennent leur souffle pour mieux vous écouter. Oh, dans ce cas, je suis prêt à dire la beauté des mystères et la bonté de Dieu. Arrête-moi quand nous serons arrivés devant ces pèlerins. Nous y sommes, brave homme, nous y sommes. Or, ils étaient seuls, tous les deux, dans la plaine silencieuse. Il n'y avait alentour que quelques herbes sèches, parmi les cailloux gris et roux, et le bruit du vent. Dans le désert, le bienheureux parla merveilleusement, d'une voix claire. Jamais il n'avait dit d'aussi belles choses. Jamais sa parole n'était allée aussi profond dans la beauté du monde. Il n'y avait pour l'entendre que l'enfant et les insectes du désert. Pourtant, quand il eut fini, tous les cailloux de la Croix dirent ensemble « Ainsi soit-il ». Et le saint homme, reprenant sa route, le visage illuminé, dit à l'enfant « En vérité, nous venons de rencontrer de bien braves gens. »
Tout compte fait.
On l'appelle le ver double, la rivière qui déroule ses méandres sur les pierres, la rivière des hautes corbières. Toi le pêcheur en eau trouble, elle n'est pas faite pour toi. Le moindre poisson te double et te glisse entre les doigts. Mais si tu aimes la chanson de son hameçon, si tu aimes le son de son âme, elle te servira comme un échanson, les flots flous de ses fraîches flammes. Il scintille le ver double, mais le coût de son argent, ni les dollars ni les roubles ne te le paieront comptant. Pas la peine que tu te mouilles à percer ses coffres forts. C'est dans l'œil de ses grenouilles que sont ses pépites d'or. Mais tu seras riche à millions de ronds dans l'eau. Il suffit d'un plongeon d'une jante d'âme. Et si tu bois le bouillon parabolo, noyé dans un baiser, ce n'est pas. Bono, fais-moi flotter en haut de ta divine ronde. Oh, 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 oh mono, radieuse radio, passe-moi un canot stéréo sur tes ondes.
C'est l'histoire de deux hommes très pauvres qui avaient marché tout le jour avec la chaleur. Ils n'avaient pas mangé grand-chose, sinon une paire de tomates à moitié mûres qu'une revendeuse leur avait donnée par charité. Ils étaient bien fourbus. Et au soleil couchant, ils aperçurent un gros figuier près d'une haie. « Tiens, si nous allions nous y asseoir, nous passerons la nuit ici, l'humidité ne nous atteindra pas sous le feuillage. » Et ils s'assirent. L'un des deux hommes était aveugle. Au bout d'un moment, celui qui voyait dit à l'autre « Eh, si nous mangions quelques figues, la nuit passerait certainement plus vite. Bon, moi je n'y vois rien, je ne pourrais en manger aucune. Bon, »« Cela ne fait rien, » dit l'autre. « Je vais monter sur le figuier et tu te mettras dessous et je t'en ferai passer. » Tu les entendras tomber et tu n'auras qu'à les manger. » Aussitôt dit, aussitôt fait. L'aveugle mangeait les figues qui tombaient et qu'il pouvait attraper. Mais voilà qu'une fois, il en saisit une qui avait la peau rude et qui semblait remuer. Bon, pensa qu'elle devait être un petit peu verte. Il la porta à sa bouche, mais la figue se mit à croasser. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, que tu croisses ou non, il faut que tu y passes. Et l'homme avale la figue, enfin, le crapaud. Mais au bout d'un moment, son ventre commença à fermenter. Il avait mal, très mal. Oh, oh, camarade, oh, voici que je m'en vais.
Oh, camarade, oh, voici que je m'en vais. Oh, camarade, voici que je m'en vais.
L'autre n'y comprenait rien.
Bon, si tu veux t'en aller, bah va-t'en, hein. Moi, je m'en irai que lorsqu'il fera jour.
Et au petit matin, quand il descendit, il trouva son camarade Red mort. Eh oui, il était parti. Et pour de bon.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Jean et Jeanne vivaient tous les deux dans une petite cabane, pas loin du Gave, sur la plaine de Bedouce. Jean, il faisait tellement de bêtises, Jeanne, elle en pouvait plus de le supporter. Alors elle l'a foutu dehors. « Jean, prends la porte !» Jean, il s'est levé, il a pris la porte, il l'a soulevée de ses gonds et il l'a prise, il l'a mise sur son dos. Jeanne, elle était désespérée. Elle est partie avec lui. Ils marchaient tous les deux là. Jean, il portait toujours la porte sur son dos. Et le soir, ils ont cherché un arbre. Il y avait les loups, ils craignaient pour les loups. Ils ont trouvé un grand chêne et ils sont montés dedans. Bien sûr, Jean, il avait pris la porte, toujours sur le dos. Et à la nuit, bah, c'est pas les loups qui sont arrivés, non, mais c'est toute une équipe de brigands. Ils venaient de voler par là. Alors, ils se sont installés sous le grand chêne. Ils ont posé leur trésor à côté. Jean et Jeanne, ils étaient au-dessus dans le chêne. Ils disaient rien. Les voleurs, ils ont fait un grand feu là et ils ont mis la marmite dessus. Mais ils n'avaient pas grand-chose à mettre dedans. Hein. La soupe était bien maigre. Le cuisinier, il touillait ça. Ah, il était triste, le cuisinier. Diable, diable, oh, la soupe, elle est bien maigre hein, ce soir. Jeanne, Jeanne, j'ai envie de pisser. Oh, Jean, retiens-toi. Jeanne, Jeanne, j'ai envie de pisser. Jean, retiens-toi. Jeanne, je ne peux, je... Et Jean s'est mis à pisser.
qu'il était juste au-dessus de la marmite Jean. Tout ça, bah, ça tombait dedans. « Diable !» s'est mis à crier le cuisinier. « Oh bah le diable m'a entendu !» Il rallonge le bouillon. Et le v'là qui touille, et qui touille, tout heureux que le diable rajoute du bouillon dans la soupe.
« Jeanne ! Jeanne ! J'ai envie de cagar ! Oh Jean, retiens-toi ! Jeanne ! J'ai envie de cagar ! Non mais Jean, retiens-toi ! Jeanne ! Je ne peux !»
Et Jean s'est mis à caguer.
Ah bah tout ça tombait dans la marmite.
Oh, diable ! Le diable encore une fois m'a entendu ! Il rajoute du gras dans la soupe, disait le cuisinier. Et il touillait tout ce gras qui épaississait la soupe. Tout heureux que le diable rajoute du gras dans la soupe.
Jeanne ! Jeanne ! La porte me fait mal !
Bah oui, Jean avait toujours la porte sur le dos.
Jeanne, j'ai envie de la laisser tomber. Non mais Jean, retiens-toi ! Jeanne ! La porte me fait mal ! Bah, j'ai envie de la laisser tomber.
Non, Jean, retiens-la.
Jeanne, je ne peux... Non mais Jean, retiens... Non mais Jeanne, je peux...
Et il a laissé tomber la porte. Un bruit que ça a fait, à travers les branches, un bruit d'enfer en tombant, et pam, la porte sur la tête du cuisinier, plouf, sur la marmite toute renversée. Oh, le diable qui débarque. Le cuisinier s'est mis à hurler. Ah, et il est parti à toute vitesse, en abandonnant tout. Mais tu parles, les autres, toute la bande des brigands. Hein. Oh, le diable. Et ils sont tous aussi partis en hurlant, en laissant tout sur place. La bonne soupe, dans la marmite et les trésors. Jean et Jeanne, ils sont descendus de l'arbre. Ils ont laissé la soupe. Mais ils ont ramassé tous les trésors. Et la porte. Et ils sont rentrés à la maison. Jean, il a remis la porte dans ses gonds. Et il me l'a fermé sur le nez.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Tout compte fait. Tout compte fait.
Retrouver l'oxygène.
fées.
Il y avait une fois un berger de Taoulade qui logeait ses moutons dans une borde à Boumbette. À la borde de Boumbette n'existe plus aujourd'hui. Elle était située au nord des tertres, près d'une sorte de pelouse. Ce berger était un garçon un peu fier et qui savait lire. « Tu ne veux pas fréquenter ceux qui te valent, ni leur parler, » lui disaient les autres bergers. « Mais pourtant, t'auras toujours autant de tics. » Mais lui, il laissait dire, et il n'en faisait qu'à sa tête. Vous savez que l'on comptait autrefois qu'on entendait du bruit sous la dune de Boumbette. Et le berger, tout en surveillant son troupeau, en avait plus d'une fois fait l'expérience. Parfois, on entendait un bruit comme si l'on avait remué de la vaisselle. D'autres fois, on entendait comme de grands éclats de rire ou comme le bruit de pas de gens qui se seraient promenés sur la liosse. Et le berger pensait souvent, avec un peu de crainte pourtant, oh, « Je voudrais bien voir le nid de ces bourdons-là. » On était bientôt au milieu de l'été et on lâchait les moutons pendant la nuit. Un soir, le berger arriva à la borde et une fois le troupeau dehors, il alla s'asseoir au sommet de la dune. Là, il tira un livre de son sac et il commença à lire. Et il lisait toujours. Par moments, il jetait un coup d'œil aux astres. Au bout d'un moment, vers minuit, la dune s'ouvrit par le milieu, juste devant lui. Et il entendit une voix de femme. « Petite, va voir ce qui se passe sur la dune. »« Mère, je vois un berger assis sur une touffe de bruyère. Eh bien, dis-lui de descendre ici. Et qu'il n'ait pas peur pour son troupeau, hein. On s'en occupe. Berger, il faut que vous veniez chez nous. N'ayez pas d'inquiétude pour vos bêtes. » Le berger songea qu'on ne mourrait qu'une seule fois et il avait très envie de voir ce qui se passait. Alors il descendit. Aussitôt qu'il fut entré, la dune se referma derrière lui. Tout cela l'intriguait fort. Il regardait souvent vers le haut. « Suivez-moi, suivez-moi! Personne ne vous fera de mal !» dit la fillette. Le berger arriva bientôt dans la salle d'un logis si beau qu'il n'avait jamais vu de pareil. Ici, c'était des miroirs, là, de la vaisselle et des vases. De belles choses d'un côté, des choses encore plus belles de l'autre. L'homme en était tout ébloui. Tout était net. Tout brillait comme l'eau claire au soleil. Dans un miroir, le garçon vit une lande profonde, profonde, où des bergers erraient, montaient sur leur échasse derrière les troupeaux. Puis il aperçut un groupe de femmes qui riaient en face de lui, si belles et gracieuses que c'était un plaisir de les voir. Il y en avait une surtout, toute jeune, qui portait sur ses cheveux une couronne tressée de bruyère et d'ajonc fleuri. « Berger, assis-toi, » dit-elle. « Tu as ici ce qu'il faut pour te restaurer. » Et te reposer, alors ne te soucie pas de tes brebis, elles n'ont pas besoin de toi pour se garder. » Et les fées lui servirent une splendide collation, avec une profusion de mets exquis auxquels il n'avait jamais goûté. Oh, je ne me suis jamais si bien rassasié dans ma vie, pensa-t-il. Quand il eut bien mangé, les fées le conduisirent à un lit si beau qu'il n'osait pas s'y coucher. Oh, ah bah ça, ce n'est plus le grabat de la borde, hein. Et pour sûr, je n'y ramasserai pas de tiques. Et il s'endormit. Quand il s'éveilla, il se remit à lire, et à lire encore dans son livre, jusqu'à ce qu'il eût fait rouvrir la dune. Et il s'en alla. Son troupeau était à l'endroit où il l'avait laissé, bien rassasié et au complet. Alors pardi, à partir du jour où il connut ce chemin et il prit vite l'habitude d'y passer. Il y avait surtout là-dedans une fée toute jeune et toute jolie, jolie comme un miroir, si bien qu'ils s'étaient pris d'amitié l'un pour l'autre. Dès lors, les autres bergers ne le revirent plus guère à la surface de la Londe. Où te caches-tu donc ? Nous te perdons pendant des jours entiers, lui disait-il. Mais ils pouvaient parler. Ils en étaient pour leurs frais. Le berger gardait encore un peu ses moutons, mieux vêtus que tous les autres, et les poches pleines d'argent. Et son troupeau prospérait plus qu'aucun autre. Jamais ses brebis ne se mêlaient à d'autres, qu'il fût présent ou non. Si elle rencontrait d'autres troupeaux, elle se détournait d'elle-même, ou bien elle le traversait sans faire de mélange. Tout cela donnait fort à jaser. Il y eut deux bergers plus perspicaces que les autres, qui voulurent savoir ce qu'il en était, et qui l'épièrent. Un soir, ils le virent se glisser vers la dune de Boumbette. Ah, il avait beau se baisser, se dissimuler entre les buissons, les autres le suivaient de loin, d'une borde à une autre, et ils arrivèrent juste à temps pour le voir s'engouffrer dans la dune. Eh bien, c'en était assez pour que le lendemain, avant le lever du soleil, bergers, chevriers et vachers se mettent à pousser de hauts cris, de cantre-grites à la bouère. Mais quand le berger voulut revenir au logis des fées, la dune ne bougea pas plus qu'une souche. Elle resta comme elle était, et telle qu'elle était toujours demeurée, un tertre, sablonneux, parsemé de bruyères et de serpolets, avec un chemin tout blanc. Et lui, ben, il eut beau lire et marmonner des imprécations et verser toutes les larmes qu'il voulut. Il n'y rentra plus jamais. Pauvre il avait été, et pauvre il redevint. Malgré tout, il ne voulut jamais quitter cette garde, pour si misérable qu'il fût. Ainsi passa sa vie de berger de Boumbette, loin des hommes et de tout, sans jamais se marier. Il ne fréquentait personne, n'avait d'autre lit ni d'autre foyer que ceux de la maisonnette de la Borde. Et on le voyait, la nuit, au clair de lune, disait-on, errer sur le monticule et frapper le sol de son bâton d'échassier, comme quelqu'un qui veut se faire ouvrir une porte.
Tout compte fait.
Tout compte fait.
Pour aujourd'hui, et oui, nous venons de terminer notre troisième étape du Tour de France, alors repos bien mérité. Retrouvez l'émission dès à présent en podcast sur le site internet de Radio G à l'adresse suivante www.radio-g.fr. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec J'entends des voix. Quant à nous, on se retrouve le jeudi 24 février à 9h10 pour notre dernière étape du tour de l'Hexagone. D'ici là, portez-vous bien et passez une bonne journée à l'écoute de Radio G.